Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
C'est quelqu'un qui va nous manquer, qui était une espèce, une sorte de balise dans les tempêtes que connaissent le monde, auquel on se rattachait.
C'est vraiment triste. Ça fait 70 ans. Moi, j'ai 61, donc c'était la reine qu'on a eue toute notre vie.
Une annonce le 8 septembre 2022. La reine Elisabeth II est décédée. Au diable la pudeur, sur les réseaux sociaux, les télévisions, au micro, de radio, du monde entier, des milliers de personnes avec la voix qui se casse, la lèvre qui tremble, des larmes. 20 millions de messages publiés en 24 heures sur Twitter pour celle qui régna 70 ans au Royaume-Uni. Une même tristesse partagée entre des Londoniens devant le palais de Buckingham, le premier ministre canadien Justin Trudeau ou encore le chanteur Elton John. Pourquoi pleure-t-on collectivement la mort d'Elisabeth II ? Pleure-t-on vraiment sa personne ou sur nous-mêmes ? On en parle avec Ariane Calvo, psychologue, psychothérapeute, autrice notamment de l'autonomie émotionnelle chez Robert Laffont. Ariane Calvo, bonjour. Pourquoi pleure-t-on autant la mort d'Elisabeth II ?
J'ai réfléchi depuis que vous m'avez posé la question et j'ai plusieurs pistes. D'abord, je relève que c'est très étonnant qu'une personne dont les émotions étaient toujours très, très, très en retenue, qui s'en targuait et qui a même été très, très, très violemment critiquée pour ça, en particulier au sujet de Lady Diana, provoque des émotions aussi démonstratives, puisque c'est vraiment le contraire de ce qu'elle était. Et ensuite, sur les raisons pour lesquelles ça nous émeut autant, j'ai l'impression que ça vient en conjonction avec la fin de tout un monde. C'est-à-dire que je crois que cette histoire de Covid, de pandémie, de crise climatique et de guerre en Ukraine, de récession, d'inflation, de difficultés collectives là, qui nous traversent tous collectivement, viennent nous chercher un peu loin dans la sensation du deuil d'un monde dans lequel les choses étaient beaucoup plus insouciantes. Et c'est comme la fin collective d'une insouciance du XXe siècle post-guerre, évidemment, d'une insouciance de l'abondance, d'une insouciance de la liberté, d'une insouciance des grands hommes et femmes politiques dont le pouvoir s'inscrivait dans une forme de longévité, qui incarnait des symboliques très fortes avec des comportements exemplaires, ces personnages d'État qui effectivement n'existe plus en dehors de personnages d'État très caricaturaux dans des formes de catastrophes politiques assez dramatiques. C'est des Trump, des Bolsonaro qui sont emblématiques dans un autre style. Donc cet emblème-là de la personne qui tient son rang, qui tient sa position, qui tient son pays, qui tient des valeurs fortes sans jamais se trahir, et sans jamais trahir sa nation, on a la sensation qu'il y en avait, il y en a plus, et il n'y en aura plus jamais. Et je crois que c'est ça aussi qu'on pleure un peu tous collectivement.
Il ne faut pas remonter il y a 10 ou 15 ans, la guerre en Irak. Le monde a toujours été pourtant un gros à feu et à sang, même si ce n'était pas en Europe.
Et oui, et je crois que ça change tout. Cette histoire de distance versus proximité là, de ce règne et de ce royaume-là qui nous est tout, tout proche. Le Royaume-Uni, ça fait quelque chose à tout le monde. Tout le monde a des souvenirs au Royaume-Uni. Elle était une sorte d'emblème de monarchie au sens large. C'est-à-dire que même la monarchie espagnole est beaucoup moins symbolique ou emblématique. Je crois aussi qu'on partage un peu leur vie personnelle, non seulement parce que les tabloïds anglais en font des tonnes depuis toujours sur tout ce qui se passe dans la famille royale britannique, ce qui n'est pas le cas de d'autres monarchies qui sont dans des pays soit plus pudiques, soit qui ont moins laissé transparaître de choses peut-être. Mais Au-delà de ça, je crois que les séries télévisées comme The Crown ou des documentaires ou la tragédie du mariage difficile, des problèmes psychologiques, du divorce et du décès dramatique de Lady Di fait que on a l'impression de partager un peu leur vie, ce qui est évidemment pas le cas, mais il y a une proximité au-delà de géographique et de connaissance avec le Royaume-Uni, une proximité de compréhension de tout ce qui traverse cette famille, qui sont des choses qui traversent un peu toutes les familles. Ça nous les rend très proches, curieusement.
L'effet de familiarisation.
Je crois.
Donc, on pleure un peu notre propre grand-mère, on pleure un peu sur nous quand on pleure.
C'est possible. C'est possible qu'il y ait un effet un peu projectif comme ça de... Ouais, de toutes ces grands-mères-là qui étaient symboliques d'une génération de femmes fortes, quoi, qui ont tracé leur route, qui ont tenu leur famille aussi. C'était beaucoup ce rôle-là générationnel, un peu de protéger la famille des réputations mauvaises qui pourraient l'atteindre, donner un cap, avoir une vision familiale, être dans la construction, dans la stabilité. C'est une génération de femmes qui a beaucoup tenu là-dessus et je crois que ça nous manque beaucoup. Au-delà de sa personnalité qui était vraiment comme ça, et c'est des valeurs qu'elle a choisies. Par contre, oui, il y a très probablement une part d'idéalisation qui nous a été communiquée et puis à laquelle on aime adhérer aussi parce que voilà, les familles royales, c'est un peu fait pour être idéalisé, c'est un peu fait pour nous faire rêver. Ça va avec ce décorum là qu'on partage tous et auquel on se prête en fait un peu plus ou moins inconsciemment.
La reine d'Angleterre est décédée. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans le monde? Vu que tout est détruit, tout est triste, il n'y a plus de chef d'État à la longévité et à la stabilité aussi grande que la reine d'Angleterre. Peut-être qu'il y a le Dalai Lama, mais bon, il fait moins rêver. Donc, oui. Comment on s'en remet?
Je crois que ce qui va être intéressant, là, c'est de créer des vraies figures politiques de conviction, de valeur, qui ont vraiment envie de soutenir l'intérêt général, qui ont vraiment envie d'être exemplaires par leur comportement et par leur droiture. Et j'espère qu'une génération peut se lever comme ça pour littéralement sauver le monde, parce que quand même, les enjeux, là, ne sont plus de sortir de la guerre mondiale, mais... Le besoin d'avoir des figures fortes qui peuvent imaginer des sorties de crise est urgent et essentiel aujourd'hui. Donc, j'espère que dans les nouvelles générations de politiques là, qui avancent et qui se font élire, il y aura des personnes qui peuvent incarner ces valeurs-là de façon forte et cohérente avec qui ils sont vraiment.
Donc, les émotions collectives, on est tout à fait prêt collectivement à repleurer demain si, je ne sais pas, il y a le décès de Madonna ou une personnalité politique.
Je suis certaine. Alors, pour Madonna, je ne sais pas, mais je suis certaine qu'on est prêt à partager des émotions collectives et je suis certaine que ça sera le cas de plus en plus dans le monde puisque la place des émotions devient de plus en plus autorisée. C'est probablement... aussi ça qui se joue hein, dans ce deuil national où on dit ses émotions de façon beaucoup plus ouverte, c'est que c'est maintenant possible, c'est plus ridicule, pathétique ou pathologique d'exprimer des émotions. Et je crois aussi qu'on a un grand, grand, grand besoin de se rassembler autour de choses qui nous font du bien. Donc, je nous crois tout à fait capable de nous mobiliser autour de grandes émotions collectives.
Mais pleurer pour un deuil, ça nous fait du bien
ou on... Je crois aussi que ça nous fait du bien. Il y a quelque chose de l'ordre des grandes étapes à passer. C'est une façon d'acter ce qui se passe, de le réaliser, de comprendre l'absence, de comprendre ce que la personne nous a apporté et qu'elle ne pourra plus apporter parce qu'elle n'est plus là pour le faire. C'est plutôt une étape intéressante.
Bon, bah alors, on ne va pas se dire vivement le prochain décès.
Non, quand même pas. mais vivement les prochaines réalisations collectives de gens qui nous ont apporté de belles choses.
Merci à Ariane Calvo pour cet entretien. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. Pour nous écrire, une seule adresse, audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes dont Tout s'explique ou L'été dans vos oreilles.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.